What we'll try to do in this session,
ce que nous allons faire dans cette session,
is to look at some of the key scriptures about sexuality and homosexuality.
C'est que nous allons regarder les passages clés de l'écriture par rapport à la sexualité et l'homosexualité.
And sometime during the morning, we'll stop and we'll have the testimony of Karina.
Et à un moment de cette session, nous arrêterons pour laisser la place au témoignage de Karine.
When I see you beginning to fall asleep, then I say it's time for a testimony.
Donc si vous commencez à dormir, c'est vraiment le temps du témoignage de Karine.
What does the Bible say about sexuality and homosexuality?
Que dit la Bible à propos de la sexualité et de l'homosexualité?
I will say the obvious, non-Christians are not interested in what the Bible says about it.
Je vais dire quelque chose d'évident, les non-chrétiens ne sont pas intéressés à savoir ce que la Bible dit sur ces sujets.
We Christians are.
Nous, oui.
I think it was in January this year.
Je pense que c'était en janvier cette année.
I was invited in a bar to have an open discussion with a lesbian Christian teacher.
J'étais invité dans un bar à avoir une discussion avec un professeur chrétien et lesbienne de son état.
Maybe 800 people in the bar.
À peu près 80 personnes dans le bar.
And we have 2 hours from 8 to 10.
Et nous avions 2 heures, de 8h à 10h du soir.
With a beer break in between.
Avec une pause bière entre deux.
Now, at the end of the first session,
à la fin de la première session,
the interviewer asked the lady, said, if the Bible was clear that homosexual practice or homosexual relationship was not okay, what would you do?
Et donc le modérateur demande à cette femme si la Bible disait clairement que l'homosexualité est un comportement qui est faux, qu'est-ce que vous feriez?
I thought it was a fantastic question.
Et je me suis dit, mais c'est une question fantastique.
And she smiled and said, I would do nothing, I would stay with my relationship.
Elle sourit, elle dit, je ferai rien de particulier, je garderai ma relation.
Because I don't think the Bible is authoritative.
Parce que je ne pense pas que la Bible ait autorité.
It describes people's experience with God and I have my experience with God.
Elle décrit des expériences de personne avec Dieu et j'ai moi-même ma propre expérience.
So that was a fantastic moment to be able to come in and say that's our difference.
Et c'était un moment, une opportunité unique de pouvoir dire mais nous sommes différents.
Now there's nothing personal between us.
Il y a rien de personnel entre nous.
You're a nice lady.
Vous êtes une personne très chouette.
But you're looking at scripture in a different way than I look at scripture.
Mais vous regardez l'écriture dans un sens différent de ce que je le regarde.
So when I see the Bible, I see God giving us guidelines for our life.
Et quand je regarde la Bible, je vois Dieu nous donner des règles de vie pour notre vie.
So my lifestyle options are limited, more limited than your options.
Et donc mes options de style de vie sont plus limitées que les vôtres.
Then it was the beer.
Et ensuite il y a eu la bière.
About sexuality.
À propos de la sexualité.
Perhaps you could read these 3 points, please.
Dieu a créé l'homme et la femme à son image, premier point. Deuxième point, les relations sexuelles entre un homme et une femme sont une idée, un plan de Dieu.
I'll stop there a minute. Some people think that sex was discovered by Hollywood.
So, plusieurs personnes pensent que le sexe a été découvert par Hollywood ou à travers Hollywood.
The Christian church over the years had a very negative view of sex.
L'Église chrétienne, tout au cours des siècles, a eu une perception très négative du sexe.
I've heard people say that the eating of the apple of Eve wasn't an apple, they had sex. That's how sin came into the world.
Et donc, certaines personnes disent que ce n'est pas une pomme qui a été mangée par Ève, mais qu'ils ont une relation sexuelle, et c'est ainsi que le péché est entré dans le monde.
So with that view, you know, sex, even within marriage, with the lights off and as fast as possible.
Et donc, avec une vue pareille, le sexe dans le cadre du mariage. What did you say afterwards?
With the lights off as fast as possible and only to have babies if you need babies.
Et donc été destiné simplement à la procréation avec les lumières allumées et surtout le plus vite possible.
So with that mentality of sex, the church has projected a very negative view.
Et avec cette mentalité, l'Église a eu et propagé une vue très négative.
But the Bible has a very different view of sex.
Mais la Bible a une vue très différente de l'acte sexuel.
God could have made women pregnant when they ate a banana or something.
Dieu aurait pu faire les femmes enceintes quand elles mangent une banane ou peut-être des fraises chez nous d'ailleurs.
And God thought, no, I'll make it more fun.
Mais Dieu a dit, je vais quand même faire plus de plaisir, plus de fun autour de cela.
It was God's idea.
Et c'était l'idée de Dieu.
In the Bible, we have a whole book, the Songs of Solomon, is it, where romance and so on.
Donc, dans la Bible, nous avons ce livre, le Cantique des Cantiques, avec cette grande histoire de romance.
There's a chapter which actually describes sex in the Bible.
Et c'est un des chapitres qui parle de sexe dans la Bible.
And nowhere in this book do you talk about children.
Et vous ne voyez aucune trace d'enfant dans ce livre.
Well translated.
Isaiah says, "The way like a young man is with his wife, so is God's approach towards Israel."
Et Isaïe dit comme un jeune homme est avec sa fiancée, ainsi Dieu est avec Israël.
Not just the covenant marriage, but also the relationship is an image of God's love and affection for us humans.
Pas simplement l'aspect de l'alliance dans le mariage, mais aussi la relation est un aspect de la relation de Dieu avec l'homme.
So the sexual revolution of the 60s, 1960s, I think has helped the church improve their view of sex.
Et donc la révolution sexuelle des années 60 au siècle dernier a aidé l'Église dans sa vue à propos des relations sexuelles.
Perhaps you can read the last one.
Et donc la sexualité dans le cadre du mariage est quelque chose de bon. Magnifique, saint et béni par Dieu.
I think when God sees a married couple enjoying sex together,
et quand Dieu voit un couple marié avoir du plaisir, avoir des relations sexuelles ensemble,
I think Father God in the heaven, he smiles and thinks, yes, that was my idea.
Et donc Dieu le Père sourit et puis se dit, oui, vraiment, c'était mon idée.
But when he sees people having sex outside of a hetero marriage,
mais quand il voit des gens avoir des relations sexuelles en dehors du cadre du mariage hétérosexuel,
it's a bit like when you see your friend with a mobile phone of 800 Swiss francs.
C'est comme si vous voyez votre ami avec un attel de 800 francs.
Getting his mobile phone, trying to put a nail in the wall with his phone.
Et c'est donc essayer de clouer ce téléphone au mur.
You think, ooh, no, that's not what phones are for.
Et non, ce téléphone, il n'est pas vraiment fait pour cette utilisation.
Sex outside marriage, that's not what sex was for.
Et les relations sexuelles en dehors du mariage, ce n'était pas ce pour quoi elles étaient faites.
Now, what does the Bible say about marriage?
Et maintenant, que dit la Bible à propos du mariage?
Matthew 19.
Donc ce texte de Matthieu 19, je vais donc le lire. Yes. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, a fait l'homme et la femme et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni.
When Jesus was asked about divorce,
quand on a posé des questions sur le divorce à Jésus,
he answers about marriage.
Il a répondu, à propos du mariage.
He goes back to Genesis, that God created man and woman.
Il s'est référé à Genèse, quand Dieu a créé l'homme et la femme.
And that when they're married, God joins man and woman together.
Et donc, au commencement, Dieu a uni l'homme et la femme.
That doesn't happen in a church.
Cela ne s'est pas passé dans une église.
Marriage is God's gift to humanity, it's not a gift for Christians.
Et donc, le mariage est un don de Dieu pour l'humanité. Ce n'est pas un don de Dieu simplement pour les chrétiens.
When atheists, Buddhists, or Muslims get married, God unites them in one.
Quand des athées, quand des bouddhistes, quand des musulmans se marient, Dieu les unit à travers ce mariage.
The Bible describes it as a covenant.
Et donc la Bible décrit le mariage comme une alliance.
A covenant is the strongest bond between humans or between persons.
Et donc l'alliance est un lien puissant entre des personnes ou entre des entités.
In the Bible you find vertical covenants, God, Noah.
Et donc vous trouvez des alliances verticales, par exemple Dieu avec Noé.
In horizontal covenants between people.
Et aussi des alliances horizontales entre personnes.
Marriage has both.
Et donc
between the couple and God and between the couple themselves.
L'alliance du mariage revêt les deux aspects, l'aspect vertical entre Dieu et le couple et entre les conjoints.
A covenant is not something you slowly slip into.
Et donc l'alliance c'est pas quelque chose dans lequel vous entrez petit à petit.
I explain it to young people in Holland, it's like an insurance policy.
Et donc ce que j'explique en Hollande à des jeunes, c'est comme une assurance.
When you buy a car and you phone, I want to insure my car.
Quand vous achetez une voiture et vous dites je veux assurer ma voiture.
And they say, okay, tomorrow morning at 10 in the morning, your insurance begins.
Et donc, on vous dit, ben voilà, vous pouvez conduire votre voiture, votre assurance est valide à 10 heures du matin, demain matin.
If you have an accident at 9:30, what happens?
Et si vous avez un accident à 9h30, que se passe-t-il?
If you have an accident at 10:30, what happens?
Si vous avez un accident à 10h30, que se passe-t-il?
You're insured.
Vous êtes couvert.
God says sex is something beautiful inside the safe structure of a covenant.
Et donc Dieu affirme que les relations sexuelles c'est quelque chose de beau et de sécurisé dans une alliance.
And yes, when does the covenant start?
Et donc quand est-ce que cette alliance démarre?
At the moment you get married.
Au moment où vous vous mariez.
And when do you get married?
Quand vous mariez-vous?
Now in Holland, that is a big discussion point.
Alors en Hollande, c'est un grand point de discussion.
Because of Napoleon.
Tout cela à cause de Napoléon.
Silly Frenchman.
C'était un frouze. Si je vais m'adapter.
In the Middle Ages, the church was so strong it had the monopoly on marriage.
Au Moyen Âge, l'Église était tellement dominante qu'elle avait le monopole sur le mariage.
They forced the rich people and then the poor people later to get married in their church.
Et donc les gens riches ou pauvres étaient forcés de se marier à l'Église.
Social control.
Un contrôle social.
Marriage, birth and death in the church.
Donc vous aviez le mariage, la naissance et l'enterrement. Dans l'Église.
So Mr. Napoleon was trying to take power away from the church to the state.
Et donc Napoléon a cherché à déplacer le pouvoir de l'Église à l'État et à lui-même.
He still needed, he was not strong enough to fight the church, so he tried to weaken it by bringing some things into the state, away from the church.
Et donc il n'était pas suffisamment armé pour affronter de façon frontale l'Église, mais il a cherché à déplacer certaines choses de l'Église dans l'État.
So now in Holland, it's illegal to marry a couple before you first have to go to the public office, the government, and then you can go to the church.
Et donc, aujourd'hui en Hollande, il est illégal de se marier en faisant quelque chose de différent que d'aller d'abord à la mairie et ensuite d'aller à l'église.
In Holland, the public office is free on Monday.
Et donc,
you can get married for free on a Monday.
Vous pouvez vous marier gratuitement le lundi. OK.
But Tuesday to it becomes more expensive and Friday Saturday is more expensive.
Et donc de mardi à jeudi, ça commence à devenir payant et puis les vendredis samedi, c'est très cher.
So you can imagine Dutch people, young people like to marry on Monday.
Donc vous pouvez imaginer que les jeunes se marient plutôt le lundi.
Dutch are very careful with their censures.
Oui, donc les Hollandais sont plutôt très attentifs à leur sou.
So they get married in the state on a Monday and then they have a church activity on the Saturday.
Et donc ce qu'ils font c'est qu'ils font le mariage civil le lundi et la célébration religieuse le samedi.
So the question is when are you married, Monday or Saturday?
Et donc, quand êtes-vous marié, le lundi ou le samedi? At 9:30 or 10?
And what do you do with the temptations during that week?
Et qu'est-ce que vous faites de certaines tentations pendant cette semaine?
It's one of those gray areas. When I counsel couples, I say, you choose Monday or Saturday, but choose before the date.
Et donc, c'est une zone grise. Et quand je conseille des couples, je leur dis, mais choisissez soit le lundi, soit le samedi, comme la date valide, mais choisissez.
If you think you're married on Monday, we will bless you on Saturday.
Et si vous pensez que vous êtes marié le lundi, nous vous bénirons le samedi.
If you think when Monday is academic, Saturday is the real wedding, okay, we will declare you married on Saturday.
Et si vous pensez que le lundi c'est juste quelque chose d'administratif et que vous préférez vous considérer marié le samedi, prenez cette date du samedi.
Now, it's a bit of a story.
Voilà, c'est une petite histoire.
But the point is, there is a beginning.
Mais le point important à retenir, c'est qu'il y a un début.
Yes, could we read the first point here?
Chaque fois qu'un mariage est mentionné dans la Bible, c'est une relation entre un homme et une femme.
Always in the Bible, marriage is between a man and a woman.
Toujours dans la Bible, le mariage concerne un homme et une femme.
Next point.
Quand la Bible donne des instructions sur la vie de famille, Éphésiens 5, Colossiens 3, 1 Pierre 3, ces instructions s'adressent aux hommes et aux femmes, aux pères et aux mères.
Always when they're families, they're talking about a father and a mother, a man and a woman.
Quand il s'agit de famille, on parle toujours de père, de mère, d'homme et de femme.
Third one.
Le mariage n'est pas une invention humaine, nous l'avons reçu de Dieu.
This is a key in your debates and discussions.
Et donc c'est vraiment un point clé dans ce débat, dans cette discussion.
If marriage is a social construction that we have designed,
si le mariage est simplement une construction sociale que nous-mêmes avons conçue,
then we also have the authority to modify it and to change it.
Alors bien sûr, nous avons la possibilité de le redéfinir et de le changer.
If the definition of marriage comes from outside and we receive a definition,
si cette définition vient de plus haut et que nous la recevons comme telle,
then we have no authority to change it.
À ce moment-là, nous n'avons pas d'autorité de la changer.
So we Christians have the idea that we receive a definition.
Donc, en tant que chrétiens, nous avons l'idée que nous recevons la définition du mariage.
But others have the idea that we define it, we choose.
Mais d'autres concitoyens ont l'idée que eux-mêmes choisissent cette définition du mariage et donc peuvent choisir quelque chose de différent.
I give you an example, a triangle.
Donc je vous donne un exemple à travers ce triangle.
Why is a triangle called a triangle?
Pourquoi un triangle est appelé un triangle?
It's quite simple. It has three angles.
C'est assez simple, c'est qu'il a trois triangles.
So it is a definition that is given to us.
Et donc c'est une définition qui nous est donnée.
Now imagine a circle saying, I also want to be a triangle.
Donc imaginez un cercle qui dise, je veux moi aussi devenir un triangle.
I'm also a geometrical figure.
Je suis aussi une figure géométrique.
I also have rights.
J'ai aussi des droits.
Why can he be a triangle and me not a triangle?
Et pourquoi pourrait-il être un triangle et moi non?
I feel suppressed.
Sorry.
I feel suppressed.
The
circle wants to be a triangle.
Yeah. Okay. Yeah. Supprimé. Okay.
Supprimé. Yeah. Mm-hmm. So we think, oh, yeah, okay, we'll allow a circle to be a triangle.
D'accord. Donc dans ce cas-là, nous respectons son désir, nous permettons au cercle de devenir un triangle.
So now you have two types of triangle.
Et maintenant, vous avez deux types de triangle.
The triangle circle triangle or the triangle triangle triangle.
Donc vous avez le triangle triangle ou le triangle option cercle.
Everybody is happy, but you've made life more complex.
Tout le monde est content, mais vous faites la vie beaucoup plus compliquée.
And if someone looks from outside, they think this is relatively crazy.
Et si quelqu'un regarde cela de l'extérieur, il dit c'est vraiment extrêmement bizarre.
I'll give you another example.
Je vous donne un autre exemple.
You here in Switzerland have a flag. Sorry, you have a flag.
Vous avez un drapeau.
Yes. Red with a white star, a white cross.
Donc vous avez un drapeau rouge avec une croix blanche.
Not so pretty as the British flag, but it's okay.
Pas aussi joli que le drapeau britannique, cela n'engage que Philippe.
Now, I imagine that you Swiss people have chosen, defined your flag.
Et j'imagine que vous, Suisses, vous avez défini et choisi votre drapeau.
You allow other people to use it in the United Nations, in hotels, abroad.
Et donc vous permettez à tout un chacun de l'utiliser, que ce soit dans un cadre tel les Nations Unies, ou les hôtels, ou à l'étranger.
Imagine the French saying, we think the Swiss flag is a bit too simplistic. We're going to change it. We're going to improve it.
Donc imaginez des Français qui disent, mais le drapeau suisse est un petit peu trop simpliste. On va l'améliorer.
Now we're getting a picture of cheese on a cow or a bell or something also on the flag.
Donc on mettra des symboles tels que le fromage, une cloche et une vache.
How would you Swiss feel?
Et comment les Suisses ressentiraient une telle chose?
I think, no, it is our flag.
Mais non, c'est notre drapeau.
We let you use it, but it is our flag. We define it.
Nous vous permettons de l'utiliser, mais c'est notre drapeau.
For me, that is, God has the definition of marriage. He gives it to us, we can use it, but we're not supposed to change it.
Et donc, de la même manière, Dieu a énoncé une définition pour le mariage. Nous pouvons l'utiliser, mais nous ne sommes pas censés la modifier.
I suggest you argue well that point. If you let go of that one, we open all possibilities in marriage.
Et je suggère que vous reteniez bien ce point et le teniez, parce que si on ne tient plus ce point, tout peut s'en aller et toute référence peut disparaître.
When I write about this, when I talk about the homosexual marriage, I always put it between little commas. It's not really a marriage. It's a homosexual, well, they call it that, so I don't give it the credit as a marriage.
Et donc, quand pour des raisons de commodité, je parle de mariage homosexuel, je le mets toujours entre guillemets, puisque pour moi, ce n'est pas un mariage en tant que tel.
Last week, I listened to a YouTube film where someone asked John Piper, if a homo married couple become a Christian, should they get, do they have grounds for divorce?
Et donc, quelqu'un demandait dans une émission à John Piper si un couple homosexuel devenait chrétien, est-ce qu'ils ont la légitimité de divorcer?
There's been no unfaithfulness between them, so do they really have to divorce?
Il n'y a pas eu d'infidélité entre eux, et donc est-ce que c'est approprié qu'ils divorcent?
And I agree with John Piper's answer.
Et j'ai été d'accord avec la réponse de John Piper.
They've never been married.
Mais en fait, ils n'ont jamais été mariés.
Because we make it legal, because we call the circle a triangle, the circle has never been a triangle.
C'est pas parce que nous avons un jour appelé le cercle un triangle qu'il l'a jamais été.
The new flag for Switzerland developed in Brussels or Paris has never been the flag of Switzerland.
Et donc le drapeau alternatif développé à Bruxelles ou à Paris pour la Suisse n'a jamais été le drapeau de la Suisse.
Now, what does the Bible say about homosexuality?
Et donc, que dit la Bible à propos de l'homosexualité?
Now, I think this is a good time to stop for the testimony.
Et donc, voilà, c'est le temps venu pour s'arrêter et laisser place au témoignage.
Philippe m'a donné quelques questions, alors je vais les suivre en espérant que ça vous intéresse ou que... il m'a demandé de situer mon arrière-plan familial. Donc, je viens d'ici, j'ai grandi à Puy. J'ai un petit frère, une grande sœur. Mes parents sont chrétiens et viennent du milieu réformé. Ils ont toujours eu des connexions avec le monde évangélique. À partir de l'âge de... Ça va le micro ? À partir de l'âge de 3-4 ans, comme ça, j'ai vécu un détachement d'avec ma mère, et ça a perduré jusqu'à ce que Dieu fasse des grandes choses dans ma vie. Mais ça veut dire que j'ai grandi avec un manque maternel, un besoin maternel pas comblé. J'avais aussi un problème de genre. J'étais un garçon manqué, enfin, j'avais cette apparence. J'ai eu de la difficulté à m'identifier justement à ma mère, mais aussi aux autres filles, ma sœur, les autres amies autour de moi. Je me sentais différente, ça ne me faisait pas envie. Je me suis plus identifiée à mon père, à un cousin, à mon frère, voilà. Et puis après, en grandissant, je voyais bien que je n'étais pas un garçon, donc je me suis imaginée, mais très sérieusement, faire partie d'une sorte de troisième genre. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des parties de ma vie où c'est comme si mon développement s'est un peu comme bloqué. Je n'ai pas continué à grandir, par exemple, dans mon identification face aux femmes. Et je suis restée un peu comme ça, immature. J'étais solitaire, réservée, donc il y a peu de gens qui ont su ce que je vivais. Je n'ai pas manifesté beaucoup de choses. Et aussi, j'ai croisé de façon courte 3-4 femmes où dans mon imagination d'enfant j'ai imaginé qu'elles pouvaient abuser de moi sexuellement. Alors est-ce que c'est parce que j'avais ces besoins que j'ai imaginé ça? Est-ce qu'elles vivaient des vies un peu spéciales? Je sais pas, mais du coup c'était des choses qui m'habitaient, des pensées qui m'habitaient, des images qui m'habitaient, et d'un côté j'avais peur de certaines femmes et d'un autre côté ça m'attirait. C'était comme une façon d'être rejointe dans mes besoins, même si c'est par la force. C'est un peu choquant, mais voilà. Quand est-ce que je suis devenue consciente que j'avais des attirances homosexuelles? Toute mon enfance, un peu régulièrement, comme ça, je ne prévoyais pas quand, je vivais des flashs par rapport à des femmes. Tout à coup, j'étais comme amoureuse d'elle, depuis enfant, hein, ça m'est arrivé. Et puis en fait, je recherchais, ça paraît normal pour une petite fille, hein, mais je recherchais leur attention, j'avais envie d'être aimée par elle, puis ça m'envahissait tout mon corps. Je me souviens très bien de m'être dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et plus tard, dans l'adolescence, ça s'est érotisé. Ado, justement, pour l'école, j'ai lu des livres, et aussi j'ai vu des films, où je me suis rendu compte que je me sentais proche de personnes qui avaient une sexualité un peu bizarre. Je ne sais pas si vous vous souvenez un film qui s'appelait Farinelli, un castrat qui chantait. Ben moi, tout à coup, je me suis dit, ah, il est comme moi. Enfin, ce côté genre et comme ça. Et c'est quand j'ai eu 19 ans, j'ai été à une pièce de théâtre à New York, j'avais été invitée. Ma tante, elle n'avait pas vraiment choisi le thème de la pièce, elle ne s'était pas rendue compte, mais c'était la vie de deux hommes gays, toute la pièce. Elle était un peu gênée comme ça, mais moi, à la fin, j'étais assise là, c'était terminé, il faisait encore noir. Je me suis surprise à me dire, ben voilà enfin des gens qui ressentent comme moi, qui sont comme moi. Puis après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je rêve? Voilà, c'est là que j'ai réalisé que j'ai utilisé, avant, j'aurais pas utilisé le terme homosexuel. Quand est-ce que j'ai partagé mes sentiments avec d'autres personnes et quelles ont été leurs réactions? Pour moi, ça a été très important, les premières personnes à qui j'ai pu parler de ce que je vivais. Dieu avait tout préparé, ça a été les bonnes personnes, vraiment, au bon moment. Deux choses qui m'ont motivée à m'ouvrir, j'avais besoin d'être vraie face aux gens en face. Et secrètement, ou pas secrètement, je cherchais de l'aide, je souhaitais de l'aide. Je me suis ouverte à des personnes qui étaient un peu dans mon entourage étant jeune. Donc il y a eu une femme adulte qui aidait dans notre groupe de jeunes. Là, je ne lui ai pas encore parlé d'homosexualité, mais plutôt ce que je vivais dans ma famille et puis des émotions. Et c'est là que j'ai découvert Dieu qui nous rejoint dans nos émotions. À une chef-ten scout, mais qui avait juste une année et demie de plus que moi. À mon parrain, ma marraine, qui était pasteur. Et aussi, et dans ces gens-là, des femmes qui m'attiraient. Parce que justement, le fait que ça me touchait profondément, c'était comme si c'était une promesse de quelque chose que Dieu voulait me donner, même si c'était un peu tordu dans ma tête. J'ai eu des bonnes réactions. Presque tous les gens, ils m'ont aimée d'autant plus. Ils ne m'ont pas rejetée. Donc je ne suis pas une témoin de mauvaises expériences, plutôt de bonnes. Ils n'ont pas été impressionnés, parce que c'était des gens pour qui mon vécu, c'était un type de défi. Ils connaissaient d'autres personnes ou eux-mêmes qui avaient d'autres types de défis. Et puis, ça ne leur a pas fait plus peur que ça. Ils avaient l'habitude de voir Dieu rejoindre les gens dans leur profondeur et puis faire une œuvre très belle. Donc, ils m'ont pris comme ça. Ces personnes du début à qui j'ai pu parler, ça a été des soutiens très importants. Et jusqu'à aujourd'hui, des gens qui m'ont soutenue dans mon cheminement. ils ont eu un intérêt, ils ont choisi de me suivre, pas de plus en parler, mais de me demander des nouvelles, de m'accompagner. Et puis ceux qui étaient responsables dans l'Église, dans le corps de Christ, ils ont vraiment été une sorte de protection spirituelle sur ma vie. En fait, au début, pendant pas mal d'années, il y avait peu de gens dans mon Église qui savaient mon vécu. Il y a eu une sorte de confidentialité qui a été mise en place, mais ça m'a permis, je pense qu'il y avait une sagesse, de vivre un peu normalement parmi l'Église, quoi, dans les frères et sœurs. Les gens n'avaient pas peur de moi, et je n'étais pas étiquetée. Donc je n'ai pas vécu comme si j'avais fait mon coming out, et puis tout le monde, enfin je le disais à tout le monde comme ça. Je le disais à des gens, mais en même temps je pouvais continuer à vivre un peu normalement. Je vous partage juste deux choses qui ne m'ont pas fait tellement du bien, mais qui sont arrivées plusieurs années après. Il y a un monsieur très gentil, mais qui m'a dit « Mais si tu as vécu ces attirances homosexuelles, c'est parce que tu étais dans une période où tu n'étais pas en très bonne santé spirituelle. » Et moi, ça m'a un peu heurté, parce que quand à 19 ans, quand j'ai un peu, ça m'a rejoint, ça m'a rattrapé. En fait, je venais de vivre une année et demie, deux ans de grand renouveau dans ma foi. C'était pas en lien, quoi, pour moi. Et puis, j'ai quelqu'un de ma famille, à un moment donné, j'ai décidé de dire à tous les gens de ma famille, puis j'ai dit à quelqu'un de ma famille, je lui ai partagé ce que j'avais vécu, et puis il m'a dit, bah, tu vois, si tu me disais que tu avais choisi le style de vie homosexuel, de pratiquer l'homosexualité, pour moi, ça aurait été OK. Enfin, c'est quelqu'un qui n'avait pas cette espérance de ce que Dieu voulait faire dans nos vies, ce qu'il peut faire dans la vie de personnes comme moi. Voilà, il n'a pas vu la valeur de mon choix, de mon combat, de mon... Ouais, ça m'a un peu... Voilà, c'était pas agréable. Quand est-ce que je suis devenue chrétienne ? C'est à l'âge de 10 ans, suite à des camps chrétiens. Merci pour ceux qui participent à des camps chrétiens, qui les rendent possibles à plusieurs camps chrétiens. Puis à un moment, j'ai donné ma vie à Jésus. Après, l'année d'après, je me suis fait baptiser. Et assez tôt, je me suis engagée pour servir Dieu. J'étais quelqu'un d'engagé dans les flambeaux de l'Évangile, les scouts chrétiens, et puis aussi dans des groupes de jeunes. Qu'est-ce que ça fait d'être chrétien et d'avoir des attirances par rapport au même genre ? Ben, déjà, je n'ai pas choisi. Ça fait partie de mon histoire de vie. Je pense qu'en tant que chrétienne, depuis que j'étais pré-ado, j'avais une vision de la sexualité où je n'avais pas envie de vivre n'importe comment ma sexualité. C'est quelque chose que j'ai reçu dans ma famille chrétienne. C'est quelque chose de précieux et que je voulais préserver. Et ça me rendait différente, une chose de plus qui me rendait différente avec les autres copines. Aussi, ado, Jésus, il m'a sauvée littéralement. Physiquement. J'ai eu des périodes de tendance suicidaire, donc la mort, j'avais été tout proche. Et ouais, il m'a sauvée. Et aussi psychiquement, j'étais dans un chemin qui amenait à la mort, quoi. Donc c'est très réel que Jésus m'a sauvée. Et donc il y a un côté où je voulais que rien, ni personne, pas une femme, se mettre entre Dieu et moi, m'éloigne de lui, de la vie, parce qu'il était devenu ma vie. Et c'est là que tout à coup j'ai été en conflit parce que, y compris mon propre chemin, ma propre solution maison pour répondre au mieux à mes besoins qui étaient l'homosexualité. Mais je ne voulais pas que ça m'éloigne parce que je savais que ça amenait à la mort. C'est un peu absolu, mais c'est vraiment ce que j'ai vécu. Je pense qu'être chrétien et avoir des attirances homosexuelles, c'est vraiment un plus. Moi, je connaissais Dieu. J'avais confiance en lui, j'avais été touchée plein de fois par son amour. Je savais qu'il pouvait faire des miracles, qu'il était puissant. J'avais confiance en lui. Et puis, en Jésus, il y a des ressources qu'il nous a acquises à la croix qui sont vraiment énormes. Il a un intérêt, ben on l'a vu, pour la sexualité, pour nos profondeurs, nos besoins. Il a envie de nous rejoindre là, ça l'intéresse de nous rejoindre là. Puis il a des projets magnifiques pour nos vies et aussi dans ces domaines. Est-ce que j'ai envisagé une relation lesbienne ? Oui, bien sûr. Ça me semblait la meilleure façon d'être rejointe dans mes besoins. Et en fait, c'est au moment où j'étais en stage dans un hôpital, je suis pharmacienne, où j'ai été très tout à coup attirée par une femme plus âgée, infirmière, et j'étais sur le point de... voilà, d'entrer dans quelque chose de réel, voilà, sur ce chemin-là. Et c'est là que j'ai pu en fait en parler à une amie proche et que j'ai commencé à recevoir de l'aide. Donc, je suis un cas particulier dans le sens où je n'ai pas vécu l'homosexualité physiquement avec une vraie femme. Par contre, ben, j'ai vécu dans mon corps, dans mes pensées, des fantasmes. Voilà. Je l'ai pleinement vécu. Voilà. Ce que j'ai vécu, c'est aussi des dépendances relationnelles. C'est souvent présent dans l'homosexualité. Très tôt, j'ai fait un choix. En fait, juste après avoir parlé de ce que je vivais à une femme dans l'église, malheureusement, c'était la femme du pasteur, donc c'était mal. Voilà, qui tout à coup m'a beaucoup attirée. Et ça m'a aussi choquée que tout à coup, ces attirances, elles me rejoignent même dans l'église, quand j'étais assise dans l'église. Là, je me suis dit, mais c'est trop. Mais j'en ai parlé parce que je devais collaborer avec elle dans un camp d'enfants. Puis il fallait que je lui dise que j'avais un problème, ça n'allait pas. Et juste après, elle ne m'a rien demandé. Mais j'ai prié, elle a dit, on va prier. Et moi, j'ai fait un choix qui paraît un choix fou, mais j'ai choisi de ne plus pratiquer l'homosexualité, y compris dans mes pensées, de ne pas entrer dans ce chemin-là. Et je vous explique pourquoi. En fait, comme c'est quelqu'un où j'étais touchée par elle, j'avais envie de recevoir d'elle. J'espérais aussi que Dieu me touche à travers elle, ou je ne sais pas. Et je savais bien que si je parlais d'homosexualité réelle, je ne pourrais rien recevoir d'elle. Donc c'était un peu à cause de ça. Et puis j'avais commencé à lire des témoignages de personnes qui avaient cet arrière-plan. Et quand j'ai lu ce qu'ils vivaient, ça m'a fait envie. Leur aventure avec Dieu, leur chemin de foi, comment Dieu agissait dans leur vie. Je me suis dit, waouh, c'est ça que je veux. Et je savais que j'avais des besoins qui étaient autres que sexuels derrière, hein, vu que j'avais grandi avec ça. Profondément à l'intérieur, que recherchais-tu ? Ben, je vous ai dit, hein, je recherchais un cœur maternel le cœur maternel de femme qui puisse me faire du bien. Donc le côté nourrissante, qui prend soin, qui sait toucher et accueillir des parties fragiles, vulnérables de nous, où on peut vivre l'attachement. Moi, je rêvais de vivre une fusion avec une femme. J'étais en manque de toucher physique. On n'est pas dans une culture, dans ma famille non plus, où il y a beaucoup de toucher. Voilà. En fait, j'avais envie d'être aimée par une femme. Puis, j'avais aussi envie de recevoir d'elle sa féminité, parce que chez moi, elle était peu développée. Donc, voilà. Je ne l'avais pas intégrée, donc j'avais besoin de m'en nourrir de sa part. Comment décrirais-tu ta situation actuelle ? Ben, pendant longtemps, j'ai l'homosexualité, avec le terme sexuel, pas juste les attirances en même, le même genre, ça a été des tentations pour moi. Et j'avais des grands besoins. Donc Dieu est venu petit à petit. Il y a des choses qu'il a fait très vite. C'était impressionnant, c'était magnifique. Puis il y a d'autres choses où ça a pris du temps pour qu'il me rejoigne, qu'il transforme certaines choses. Je peux encore aujourd'hui être sensible tout à coup à une femme. Puis ça me touche profondément, puis j'ai envie de vivre une relation dans mes besoins émotionnels. Rapidement, j'ai pu accueillir, c'était très beau et miraculeux, je pense, mon genre, le fait d'être une femme, une fille, être bénie là-dedans et aussi découvrir comment c'est génial l'hétérosexualité, la complémentarité homme-femme et entrer là-dedans. Par contre, donc moi, c'est quand j'étais jeune, hein, là j'ai 45 ans, il m'est arrivé quelque chose, je suis obligée un peu d'être honnête avec vous, ces trois dernières années, je n'avais pas vraiment prévu ça, mais je ne sais pas tout comment ça s'est passé. Mais actuellement, je n'ai plus d'attirance homosexuelle par rapport... homosexuelle, ça veut dire d'attirance sexuelle par rapport à des femmes. J'ai des attirances sexuelles par rapport aux hommes, mais pas plus aux femmes. Voilà. Alors ça a été un peu un choc, j'ai dû apprendre à vivre avec ça, de me dire je ne suis plus la même chose... Et voilà. J'ai encore du chemin à faire, entre autres pour découvrir et vivre des relations proches de personnes qui me connaissent bien, avec qui je peux me frotter. Je suis encore un peu solitaire. Et puis aussi dans le fait de me réjouir de ma féminité, de m'épanouir dans ma féminité. Je pense que j'ai encore un bout de chemin à faire. Et puis la dernière question, quel rôle Dieu joue-t-il dans ta sexualité actuelle ? Alors comme je suis célibataire, je ne cherche pas à éveiller le côté érotique, parce qu'après c'est trop dur à gérer, enfin voilà. Mais je vise plutôt que ma sexualité, ça soit un élan de vie pour être une bénédiction pour les autour de moi. Ce côté force, quoi. En fait, j'en parle régulièrement à Dieu et à d'autres personnes qui me sont proches. J'aime faire ça. Et puis, je fais quelque chose, alors c'est personnel, hein. Je prends régulièrement des moments, des assez longs moments, dans la présence de Dieu. Je vous donne un petit détail. Moi, je me mets sous mon duvet. Voilà. Parce que là, je me sens bien. Où je vais devant lui, et puis je lui dis, je cherche à être le plus vrai possible avec moi-même et avec Dieu. Puis, un peu, je lui dis, sonde-moi, sonde mon cœur, Seigneur. Et puis, je laisse, sans faire n'importe quoi avec mes pensées, de nouveau, parce que je ne veux pas entrer dans des chemins que Dieu ne veut pas, mais je laisse surgir mes émotions, mes désirs, mes besoins, même s'ils sont un peu bizarres, si ce n'est pas glorieux. Voilà, puis je l'amène devant Dieu, puis je lui dis, ben, voilà, tu vois ça, ben, je ne sais pas comment tu vas faire, mais viens me rejoindre là. Je crois en ta puissance pour me rejoindre là. Puis je le laisse faire quelque chose, je ne sais pas quoi, mais me toucher là. Et puis je lui demande aussi, montre-moi comment je peux collaborer avec toi dans ma vie quotidienne ou dans aujourd'hui, demain. Qu'est-ce que je peux faire pour collaborer avec toi à ma restauration, à continuer à grandir dans ces domaines, peut-être aller voir des amis, qu'il faut que je reprenne contact avec quelqu'un ou... Enfin, je ne sais pas, me faire du bien d'une façon ou d'une autre, donc concrètement. Je fais ça, c'est peut-être un peu bizarre comme façon de faire, mais déjà pour que Dieu puisse me faire du bien, ça me fait du bien de vivre ça. Mais aussi parce que dès le départ, j'ai compris que ce n'était pas une astuce de refouler les choses. Il vaut mieux, parce qu'après ça me rattrape et puis c'est trop fort, un peu comme la cocotte minute, quoi. Il vaut mieux laisser un peu le couvercle ouvert de temps en temps. Voilà. Et puis aussi, c'est une façon pour moi, et c'est aussi une clé dans mon cheminement, de continuer à avancer, de continuer à découvrir ce que Dieu a pour moi. Voilà.
Thank you very much, Karina.
Merci beaucoup, Karina.
I got it translated into Dutch, so I followed most of it.
Donc, j'ai bénéficié d'une traduction hollandaise, donc j'ai pu suivre la plupart de ce que tu as dit.
Shall we pray for Karina?
Devons-nous prier pour Karina?
Father God, we thank you for creating Karina.
Dieu et Père, nous te remercions d'avoir créé Karina.
Father God, we know that you've seen her since she was born.
Et tu l'as vue depuis sa naissance.
You know, you've seen what was missing in her childhood.
Et tu vois ce qui a manqué dans son enfance.
Lord, you've seen the longings of her heart.
Et tu vois les soupirs de son cœur.
And all this time you've been near her and loving her.
Et tu es près d'elle et tu l'aimes.
Lord, we thank you for the developments over the last years.
Et merci Seigneur pour les évolutions de ces dernières années.
We thank you for her deep love for you and a desire to serve you.
Et nous te remercions pour son amour profond pour toi et son désir sincère de te suivre et de te servir. Et nous te prions de continuer à la bénir dans son cheminement.
And that you would use her to bless other people.
Et que tu l'utilises pour bénir d'autres personnes.
Also those who struggle with their sexuality.
Et ceux qui se battent ont des difficultés avec leur sexualité.
Amen.
Amen.
Now, what does the Bible say about homosexuality?
Que dit la Bible à propos de l'homosexualité?
Some people say the Bible doesn't talk about the feelings, but about the activities, the actions.
Certains pensent que la Bible parle non pas des sentiments, mais de l'activité homosexuelle.
Oh, it clearly speaks about the actions.
Clairement, la Bible parle des actions.
In the Bible texts which are used in most books, you can find them in four, you can divide them in five different baskets.
Et donc sur les différents textes que vous lisez dans la Bible à propos de ce sujet, vous pouvez les classifier en cinq catégories ou cinq groupes de textes.
The first basket, you have the story of Sodom.
Et le premier groupe de textes, vous avez l'histoire de Sodome.
Where some men of the town want to rape two angels.
Et donc là où des habitants de la ville voulaient violer deux anges.
I do not recommend using that Bible text when you're in discussion about the homo marriage.
Et je ne vous recommande pas d'utiliser ou d'appliquer ces textes au mariage homosexuel.
There's too many complications with that story.
Il y a trop de complexité avec cette histoire.
There are lots of sins in Sodom and Gomorrah. God punished them because of lots of sins.
Il y a beaucoup de péchés à Sodome et Gomorrhe, et d'ailleurs Dieu les a punis pour un nombre incalculable de péchés.
If the two angels were women, would it be then okay?
Et si les deux anges avaient été des femmes, alors est-ce que cela aurait été convenable?
No, it's the violence.
Non, c'était la violence.
Do you think all the men of Sodom were homosexual?
Pensez-vous que tous les hommes de Sodome étaient homosexuels?
Very unlikely.
Non.
Maybe a small
Peut-être.
Percentage, and the other ones were heteros doing homo things.
Et donc, ce que l'on peut plus raisonnablement penser, c'est qu'un petit pourcentage était homosexuel et que les autres étaient hétérosexuels en ayant parfois des comportements ou des actions homosexuelles.
So these stories are so different from a loving relationship between two men or two women that I do not recommend using them in this discussion.
Et donc cette histoire est tellement loin d'une situation de couple de deux hommes ou de deux femmes que je ne recommande pas du tout d'utiliser ces textes-là.
The second group is a basket of Bible texts, usually Kings, where it talks about prostitution in temples.
Le deuxième groupe de textes concerne des allusions à la prostitution sacrée dans les temples.
In the fertility rites of those days, you'd have female and male prostitutes in the temples.
Et donc dans les cérémonies de fertilité, vous avez des prostituées et mâles et femelles dans les temples.
So customers could use men or women.
Et donc du coup les clients peuvent utiliser des hommes ou des femmes.
And God condemns that.
Et Dieu condamne ces actions.
I would say those Bible texts are also not so useful when you're talking about a loving, caring relationship between two people.
Et donc ces textes ne sont pas utiles quand on parle d'une relation d'amour, d'affection entre deux hommes ou deux femmes.
When you're talking with Christians, I would start with group number 4.
Et donc en discussion avec des chrétiens, je recommanderais de commencer avec le groupe numéro 4.
Because guidelines for Christians are found in the New Testament.
Parce que les règles de vie pour les chrétiens sont présentes dans le Nouveau Testament.
So what I'll do now is I'll go for group number 4.
Et donc, ce que je vous propose, c'est d'examiner le groupe numéro 4,
which is Romans chapter 1,
qui est le chapitre numéro 1 de l'Épître aux Romains.
Then group number 5,
ensuite, le groupe numéro 5,
Corinthians and Titus and Timothy,
et donc dans 1 Corinthiens et Timothée.
And then a brief reference to group number 3.
Et ensuite, une référence rapide au groupe numéro 3.
And then it's time for lunch.
Et ensuite, il sera temps d'avoir le déjeuner, ou le dîner, on dit ici.
Romans chapter 1.
Romains 1.
Now with a bit more time, you would like to read most of the chapter.
Avec un peu plus de temps, il serait utile de lire tout le chapitre.
But I'm sure most of you had read that chapter lots of times.
Mais je suis sûr que la plupart d'entre vous avez lu ce chapitre de nombreuses fois.
So perhaps you could just read this part of the chapter.
Donc la lecture du texte, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pour cette raison que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Leurs femmes ont remplacé les rapports sexuels naturels par des relations contre nature. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, versets 24 à 32.
Now, in Christian books that make room for homosexual relationships,
dans les livres chrétiens qui accordent une place pour les relations homosexuelles,
they explain this text in different ways.
Ces livres expliquent ce texte par différentes manières.
A very popular Christian author, he says, when I read Romans chapter 1, I do not identify with what's happening here in Romans 1.
Un auteur très populaire dit, quand je lis Romains 1, je ne m'identifie pas à ce qui est décrit dans Romains 1.
Romans 1 is about people who do not like God, but I love God, I love Jesus, it has nothing to do with me.
Et donc Romains 1 concerne des personnes qui n'aiment pas Dieu, mais moi j'aime Dieu, j'aime Jésus.
So, Romans 1 has no message for me as a person who loves God.
Et donc Romains 1 n'a pas de portée pour moi qui aime Dieu, pas de message.
And with that argument, they set Romans 1 aside.
Et donc il balaye d'un revers de main Romains 1 avec ce type d'argument.
The other argument I see often is about natural and unnatural.
L'autre type d'argument que je vois de manière répétée est, se fonde autour des adjectifs naturels et contre-nature.
And then they say what Gaudry is saying in Romans 1 is that God does not like unnatural sex.
Et donc ils disent que ce que Dieu dit dans Romains 1, c'est que Dieu n'aime pas le sexe contre-nature, non naturel.
So if I am homosexual man, it is natural for me to like have sex with another man.
Et donc, en tant qu'homosexuel, pour moi, c'est naturel d'aimer un autre homme. Donc, ce n'est pas non naturel.
And if I'm lesbian, then it's natural for me to have sex with another woman.
Et de même, si je suis lesbienne, c'est naturel pour moi d'aimer une autre femme.
So what God is saying is that if you're homo, you should not practice heterosex. You should only do homosex.
Et donc Dieu dit, bah, si tu es homo, tu ne devrais même pas pratiquer du sexe hétéro si toi-même tu es homo.
It is a very popular argument.
Et c'est donc un argument très commun.
But it goes against what the text says.
Cependant, cela va contre ce que dit le texte.
The definition of natural is not what you feel.
La définition du terme naturel n'est pas ce que tu ressens.
It is the way God has created things.
Mais c'est la manière dont Dieu a créé les choses et les êtres.
What is natural is God's purpose in creation.
Qu'est-ce que Dieu a prévu dans sa création? Quel est son propos?
So, in the one but line, last line.
So, dans la dernière ligne.
Men abandoned natural sex with a woman.
Donc les hommes ont abandonné les rapports naturels avec la femme.
There's the definition of natural sex, a man with a woman.
Et donc vous voyez très bien que là est la définition du sexe naturel, un homme avec une femme.
So we're not left trying to guess what does it mean to be natural. The apostle Paul explains it in the text itself.
Donc nous n'avons pas à deviner ou imaginer ce qu'est une relation naturelle, l'apôtre Paul l'explique dans le texte même.
Now in counseling, I would say Romans 1 is not a very useful text to use.
Cependant, pour une approche pastorale, je dirais que Romains 1 n'est pas le texte le plus approprié à utiliser.
Yes, it helps you see what is natural.
Bien sûr, cela vous aide à voir ce qui est naturel.
But what Romans 1 is showing is a global society picture.
Mais ce que Romains 1 montre, c'est en fait une fresque globale de toute la société.
In the previous talk, we had these global ideas about the way you think.
Et donc, dans l'exposé précédent, nous avons vu cette idée globale de ce que les gens pensent de la représentation du monde.
In chapter 1 of Romans, Paul is explaining globally what happens to a society who rejects God.
Et donc, dans Romains 1, Paul explique ce qui arrive à une société qui rejette Dieu.
When a society has a kind of limited knowledge of God,
quand une société a une sorte de connaissance limitée de Dieu,
of the Creator,
du Créateur,
and replaces that creator with the creature,
et quand elle remplace le Créateur par la créature,
then a number of changes begin to happen in that society.
En conséquence, un nombre important de changements et successifs arrive dans cette société.
When the person becomes central and not God,
quand la personne devient centrale et non Dieu,
then the desires of the person become more important than the desires of God.
Les désirs de la personne deviennent plus importants que les désirs de Dieu.
And then society begins to change.
Et donc, en conséquence, la société commence à changer.
The laws in society begin to change.
Les lois de la société commencent à changer.
So here in Romans, it says one thing is that sexuality begins to change.
Et donc Romain dit que la sexualité commence à changer.
It's not the only thing. At the end of Romans, you have a number of other 8 or 9 different things that happen in society when God is rejected.
Ce n'est pas simplement la seule chose qui arrive à la fin du chapitre. Vous avez 8 ou 9 choses qui arrivent quand Dieu est rejeté par la société.
And when I see Europe and Holland, I can just see exactly this happening.
Et quand je vois l'Europe, la Hollande, je vois exactement cela arriver.
When we reject God, men becomes important, our feelings become dominant.
Et donc, quand on rejette Dieu, les hommes deviennent importants et nos sentiments deviennent dominants.
Let's go to basket number 5.
Et c'était donc le groupe numéro 4 et passons au groupe numéro 5.
So here's Paul writing to Timothy.
Paul écrit à Timothée.
Perhaps you could read that to 1 Timothy 1, 9 and 10.
La loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les malfaiteurs et les rebelles, les impies et les pécheurs, les sacrilèges et les profanateurs, ceux qui tueraient père et mère, les meurtriers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les homosexuels, les trafiquants d'esclaves, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, 1 Timothée 1, 9, 10.
Homosexual practice is mentioned in this text.
La pratique homosexuelle est mentionnée dans ce texte.
And it is not positive.
Et ce n'est pas positif.
It is called, it goes against the sana doctrine, against the healthy doctrine.
Et donc, c'est appelé comme à l'encontre la saine doctrine.
The Bible never, there is nothing positive about homosexual relationships to be found in the Bible.
Il n'y a rien de positif que nous puissions trouver dans la Bible à propos d'une relation homosexuelle.
Now, there are two Greek words used for homosexuality.
Il y a 2 termes grecs utilisés pour l'homosexualité.
This is one, arsenokotai.
C'en est un, arsenokotai. You practice more than me, your Greek.
It is a junction of two words.
C'est une conjonction de 2 mots.
Arsenon.
Arsenon.
Is a man.
C'est un homme.
And koitos, sex.
Koitos, sex.
Now, it is not used very much in the Greek. In fact, I think Paul was one of the ones who made up this word.
Donc, c'est un terme très rarement utilisé dans le grec courant. Paul l'utilise à dessein ici.
So I find some books saying, well, this word, hardly anybody uses it, we don't know what it means.
Et donc, un argument courant, c'est que comme ce terme est rencontré très rarement et pratiquement que là, on ne sait pas ce que cela veut dire.
But just by seeing the two parts, you could just see it's quite obvious what it
means. Mais en regardant les mots qui construisent ce grand mot, cela rend son sens assez évident.
Sex between two men go against the sound doctrine.
Et donc, l'activité sexuelle entre 2 hommes va contre la saine doctrine.
And here the other verse in 1 Corinthians 6.
Et donc, un autre texte dans 1 Corinthiens 6. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, 9, 10.
Now, here we find the two Greek words.
Et là, nous trouvons les 2 termes en grec.
Malakoi.
Malakoi.
It is not, transvesti is not a very good translation.
Travesti is not a very good n'est pas une bonne traduction.
Because it's to do with clothing.
Parce que cela regarde la façon de s'habiller.
It was used in Greek to have the young boy who was used by the older man. He was the malakoi, the one that took the role of a woman. The man who took the role of a woman.
Donc un homme qui prend le rôle d'une femme était décrit par ce terme en grec.
So when you find them together, the first deals with a passive, if you could call that, a passive one in the sexual relationship, and the other one, arsenoktoi, has to do with the more active in the sexual relationship.
Et donc cela a plus à voir le premier terme avec un rôle passif dans la relation, malakoi, et le deuxième terme avec un rôle plus actif dans la relation.
So it's very clear here that it is disapproved by God.
Et il est clair que cela est désapprouvé par Dieu.
Now some people use this text to say that If someone is actively homosexual, a natural relationship, he cannot be a Christian.
Et donc, certains utilisent ce texte en disant si quelqu'un a une relation homosexuelle active, il ne peut pas être un chrétien.
Can a Christian have a homosexual relationship?
Est-ce qu'un chrétien peut avoir une relation homosexuelle?
Yes. It talks about those who will not inherit the kingdom of God.
Donc, il parle de ceux qui n'hériteront pas du royaume de Dieu.
What does that mean?
Qu'est-ce que cela veut dire?
Yeah, I want you just to see the stress in theologically working this point.
Donc, voyez un petit peu quelque chose qui se cristallise au niveau théologique sur ce point.
Can a Christian murder somebody?
Est-ce qu'un chrétien peut tuer quelqu'un? Non. No.
I think Christians can murder.
Moi, je pense qu'un chrétien peut tuer quelqu'un.
Can a Christian get drunk?
Est-ce qu'un chrétien peut être saoul?
Can a Christian misuse a child sexually?
Est-ce qu'un chrétien peut abuser d'un enfant sexuellement?
Does he stop becoming a Christian when he misuses a child sexually?
Et donc, quand il fait cet acte-là, est-ce qu'il l'arrête tout d'un coup d'être un chrétien?
Now, some people say that when you sin very badly, then you stop becoming a Christian.
Et donc, certains pensent que si vous péchez très gravement, vous pouvez cesser de devenir un chrétien.
And some of us would say he's a bad Christian.
Et d'autres diront c'est un mauvais chrétien.
You see how you have to be careful with the discussion?
Et voyez à quel point vous devez faire attention dans la discussion.
When I hear people saying, "Well, if you're a homosexual practicing, then you're not a Christian," I think, how can you say that?"
Et quand j'entends des personnes dire, si vous êtes chrétien, vous ne pouvez avoir de relations homosexuelles, je m'insurge, je me dis, comment il peut dire ça?
So when I read verses like this,
quand je lis un verset tel que celui-ci,
it's talking about the unjust.
Il parle à propos des injustes.
So homosexual relationship lifestyle is characteristic or is part of an unjust lifestyle. It's not the lifestyle God wants for a Christian.
Et donc, le style de vie homosexuel fait partie d'un style de vie d'injustice, caractérisé par l'injustice.
Now, if you want to talk about more after in the lunch, we can talk more. But I just want to make that point clear, because the use of this text.
Et donc, on pourra discuter de façon plus informelle pendant le repas, mais je voulais rendre ce point clair.
And what does it mean by inherit the kingdom of God? Does it mean being part of the church? Does it mean going to heaven? Now, you need to discuss that point too.
Et qu'est-ce que ça veut dire hériter du royaume de Dieu? Est-ce que ça veut dire aller au ciel? Est-ce que ça veut dire faire partie de l'Église? Nous avons aussi à discuter ce point-là.
Now, one other interesting thing I discovered about 7-8 months ago.
Une autre chose intéressante que j'ai découverte voici 7 ou 8 mois.
There is a very popular book, American book, which makes the room for homosexual relationships in the church.
Et donc, il y a un livre très populaire édité aux États-Unis qui fait une place pour une relation sexuelle vécue dans l'Église.
This author argues that all the Bible texts are not very clear.
Cet auteur prétend que tous les textes bibliques ne sont pas très clairs.
That the only useful text is this one here in group 5.
Et donc les textes les plus pertinents sont ceux que nous venons de lire dans ce groupe 5.
So everything depends on your definition of arsenokotai.
Et donc tout dépend de la définition de ce mot grec arsenokotai.
And since hardly anybody outside had used that term before, we don't really know what it means.
Et donc, comme personne n'a utilisé vraiment ce terme avant, nous ne savons pas vraiment ce qu'il veut dire.
So it is better not to be judgmental.
Mais c'est donc beaucoup mieux de ne pas être dans une attitude de jugement.
But to have a different approach.
Mais d'avoir une approche différente.
And to compare an homo marriage with the character of God.
Et de comparer le mariage homo avec le caractère de Dieu.
God is love, here is love.
Dieu est amour, ici il y a de l'amour.
God is a God of relationships, here is relationship.
Dieu est un Dieu de relations, dans ce mariage il y a des relations.
God is a faithful God, here we have faithfulness.
Dieu est fidèle, là aussi il y a de la fidélité.
So he concludes that these relationships reflect God. They're okay.
Et donc quelque part cette relation reflèterait Dieu.
What I discovered about 7 months ago.
Est-ce que j'ai découvert il y a 7 mois?
was that this word arsenokoitai meant sex.
C'est que ce terme arsenokoitai, homme et sexe,
are exactly the two words used in the Septuagint for Leviticus 18.
C'est que c'est exactement les mots grecs utilisés dans la traduction des Septante, c'est donc la traduction d'hébreu en grec qui a été faite par 70 érudits juifs en moins de 150, et ce terme grec a été utilisé pour les textes de Lévitique 18 parlant de l'homosexualité.
So the Apostle Paul was familiar with the Septuagint.
Et donc l'apôtre Paul est familier avec cette traduction dite des Septante.
Picked out those two words, sex and man, and put them together here, and it was very clear for everybody what he meant.
Et donc pour n'importe qui familier de cette traduction, quand il voyait ces deux mots grecs ensemble, c'était extrêmement clair.
So as a Christian, we look at the New Testament.
Et donc nous disons qu'en tant que chrétien, nous regardons en premier le Nouveau Testament.
We see that God is always positive about sexuality and the hetero marriage.
Et nous voyons que Dieu est toujours positif à propos de la sexualité du mariage hétérosexuel.
And always negative about homosexuality.
Et toujours négatif à propos de l'homosexualité.
The question is, now, is this a new revelation in the New Testament?
La question c'est, est-ce une nouvelle révélation contenue dans le Nouveau Testament?
And then I think it's useful to go to the third group, which is the law of Moses.
Et donc Philippe pense que c'est très utile de se référer à l'Ancien Testament et au groupe 3, ce qui est inscrit dans la loi de Moïse.
Could you read the Leviticus 18, please?
Et donc, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une pratique abominable. Ne vous rendez impur par aucune de ces pratiques, car c'est par elles que les nations que je vais chasser devant vous se sont rendues impures.
Thank you. Now, if you look at the first part, it is part of the law of Moses for the Israelites.
Donc, si vous regardez la première partie de ce texte, vous voyez que c'est un message de Dieu pour les Israélites.
The word abomination, you can translate it with a sin.
Donc, vous pouvez traduire le terme abomination par péché.
Some people use the word abomination to think, well, it's the worst possible of sins.
Et donc, certains utilisent ce mot pour dire, c'est vraiment le péché le pire possible.
So people think, well, hetero sins are understandable, but homo sins, oh, they're abomination.
Et donc, certains pensent que les péchés commis dans le cadre d'une relation hétérosexuelle, comme l'adultère, sont des péchés à peu près standards, alors que le péché homosexuel est absolument abominable.
I said, no, both are sin, both are wrong.
Mais les deux sont des péchés.
And then people say, well, this is a rule for Israel.
Certains disent, c'est une règle pour Israël.
There are lots of rules for Israel that we Christians don't do anymore.
Et donc il y a beaucoup de règles faites pour Israël qu'en tant que chrétiens nous n'appliquons plus.
We cut the edges of our beards.
Non, nous ne coupons plus les coins de notre barbe.
Our clothing has mixture of textures.
Et donc nous avons différents tissus ou matières dans nos habits.
So why so much emphasis on this one and not the other laws?
Donc, pourquoi se focaliser sur ce texte-là et non sur les autres?
Some of the laws of Moses reflect God's moral law for humanity.
Et donc, les lois de Moïse reflètent les lois morales de Dieu pour l'humanité.
God never expected non-Jews not to cut their beards or not to dress. That's okay for the Gentiles.
Sorry, I think I misunderstood.
That God never asked the Gentiles to not cut their beards or to have clothing.
On pense que Dieu n'a jamais demandé à ceux qui n'étaient non juifs de ne pas couper leur barbe ou de ne pas avoir d'habits mélangés.
But some of the moral laws were also applied to the Gentiles.
Mais certaines lois morales étaient appliquées aux gentils.
To the Canaanites who lived in the land.
Aux Cananéens qui vivaient dans la terre promise.
And that you see it clearly in the second paragraph, verse 24.
Et c'est ce que vous voyez dans le verset 24. C'est les nations. C'est par ces pratiques-là que les nations que je vais chasser devant vous se sont rendues impures.
So some of these moral things were happening in the nation, and that's why God was taking them out and putting the Israelites there.
Et donc, certaines choses qui arrivent chez les nations Je vais rendre le sens, mais je n'ai pas compris. I did not understand very well.
That God was against the homo practice also among the Gentiles, also among the Canaanites.
Donc Dieu était contre la pratique homosexuelle chez les nations également, pas que chez les Israélites.
And if you read chapter 20, perhaps we could read that again. We see it again. First for the Jew, and then we see God condemns it all also among the Canaanites.
Et cette même articulation se trouve au chapitre 20. On va le lire. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils commettent tous deux un acte abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux, donc pour les Israélites. Vous ne suivrez pas les coutumes des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont fait cela et je les ai en horreur.
So to conclude, we see God disapproves of homosexual relationship in the New Testament and also in the Old Testament.
Ce que nous voyons en guise de conclusion, c'est que Dieu désapprouve l'homosexualité, que ce soit dans le Nouveau Testament, mais également dans l'Ancien Testament.
For the New Testament, disapproved for the Christian.
Dans le Nouveau Testament, pour les chrétiens.
For the Old Testament, for the Jews and for the Gentiles.
Et dans l'Ancien Testament, pour les Juifs et pour les nations.
Here's the conclusion then.
Voici la conclusion. Shall I read it? Please. L'intimité sexuelle et les relations sexuelles sont bonnes et bénies par Dieu seulement dans le cadre du mariage entre un homme et une femme. Les relations sexuelles dans tout autre cadre sont désapprouvées par Dieu.
So this is the theological or the basis for Christian morality or on sexuality.
Donc c'est la base théologique pour la morale chrétienne à propos de la sexualité.
Now it's time to stop and have a break.
Donc c'est maintenant temps de s'arrêter pour une autre pause.
But before we do, I'd like to say something about some books.
Mais avant cela, j'aimerais présenter quelques livres.
All of them. I think I can say something quick.
Okay.
And also to say that Karina and Gert-Jan and I were available for this whole time. So if you have more questions to Karina about her testimony, use the occasion.
Et vous dire aussi que nous sommes tous les trois disponibles pour toute question ou échange.
Now, I brought some books in English.
J'ai apporté quelques livres en anglais et un livre en français.
Plausibility problem.
Donc, mythe et réalité à propos de l'Église et de l'attirance pour le même sexe, qui va être traduit en français et disponible à la fin de l'année. On va l'éditer.
Oui. We are working on the Dutch translation, which we hope to publish before you in 2 months.
Donc, nous travaillons sur la traduction en hollandais que nous espérons publier avant vous en 2 mois.
Yeah. He's an Anglican man. I met him in Bristol last year. He's Anglican.
C'est un Anglican. Je l'ai rencontré à Bristol l'année dernière.
He lives alone. He has homosexual feelings.
Il vit seul. Il a une attirance homosexuelle.
He has a website with really good stories.
Il a un site internet avec de très belles anecdotes.
And his thesis is that the church has to change to make it to there are lots of misconceptions about homosexuals.
Il va donc questionner dans ce livre les différentes fausses idées que l'Église a à propos de l'attirance pour le même sexe pour pouvoir mieux accueillir les personnes qui sont dans ce cas-là. Je rajoute parce que je l'ai lu.
Is God anti-gay?
Dieu est-il homophobe? Traduit aux éditions BLF, disponible.
Is it translated in French?
Yes, already available in French, yes.
Transgender, by Roberts.
Transgenre.
He's an Anglican priest in Oxford.
Donc c'est un prêtre à Oxford.
With homosexual feelings.
Avec une attirance homosexuelle.
And he's written this book about, it's a simple book, it's an introductory book, but it helps Christians to begin to think about transgender.
Et donc c'est des livres qui sont relativement courts, qui constituent une introduction sur la question transgenre.
He also wrote this book about friendship.
Il a aussi écrit ce livre sur l'amitié.
Because he's homo and alone, he values friendships.
Parce que en tant qu'attiré par le même sexe et célibataire, il met en valeur l'amitié.
And he argues that ladies are pretty good at having friends and that we men are somewhat complicated in having friends.
Et donc sa thèse, c'est que les femmes ont des facilités à avoir des amis, tandis que les hommes ont plus de difficultés.
Even as Christians, we have Christian work colleagues.
Et donc même en tant que chrétiens, nous avons des collègues de travail chrétiens.
So he's encouraging healthy friendships that would also help homos in a church.
Et donc, il encourage des amitiés saines dans l'Église.
This book, A Better Story.
Ce livre, Une meilleure histoire.
My brother John sent it to me, I think, two or three years ago.
Frère Jean me l'a envoyé il y a 2 à 3 ans.
Published in 2015.
Publié en 2017.
By a psychologist, a psychiatrist in England, a retired psychiatrist, just retired.
Donc un psychologue à la retraite en Angleterre.
He says this is the book that's hitting strong in the UK at the moment.
Donc ça c'est le livre qui a beaucoup de succès au Royaume-Uni en ce moment.
He argues that the sexual revolution in the 1960s promised free sex and lots of it.
Et donc sa thèse est que la révolution sexuelle dans les années 60 a promis du sexe et beaucoup de choses.
But he looks at the statistics and there's much less sex in England now than in the 1950s.
Mais il regarde les statistiques et il voit qu'il y a beaucoup moins de pratiques sexuelles en Angleterre maintenant que dans les années 50.
Lots of complicated relationships, lots of divorces, lots of people living alone. There's much less sex available. A promise that did not come true.
Donc beaucoup de relations compliquées, beaucoup de divorces, beaucoup de ruptures, et donc finalement la promesse n'est pas devenue réelle.
He is convinced that we Christians have a better story on sexuality.
Et il est convaincu qu'en tant que chrétien, nous avons une meilleure histoire sur la sexualité.
Better than all the alternative society is offering.
Et bien meilleure que ce que des sociétés alternatives pourraient offrir.
But his worry is that church leaders no longer believe that their story is a better one.
Mais son souci, c'est que les responsables d'église ne croient même plus que l'histoire chrétienne est meilleure que celle des autres.
That church leaders are very reluctant to speak about it and a bit embarrassed.
C'est que les responsables d'église sont réticents et embarrassés pour parler de ces choses.
So if the church leaders are reluctant, the generation under them lose confidence in the good, better story from the Bible.
Et donc, si les responsables d'église sont réticents à parler de ces choses-là, la jeune génération va perdre ses repères et perdre la conviction que le modèle chrétien est le meilleur.
Now, I'll end with a little story he has here in the book. That inspired me.
Donc ces histoires m'ont inspiré.
It has a little story about a big Indian elephant.
Et donc il y a une histoire sur un grand éléphant indien.
Yeah, so you can just imagine a big elephant in India with a little Indian man sitting at the top.
Donc vous imaginez en fait un grand éléphant avec un petit homme assis sur l'éléphant.
And the little Indian man has a little stick.
Et le petit homme indien a un petit bâton.
And if he hits the left ear of the elephant a few times, then the elephant goes left.
Et donc s'il frappe l'oreille gauche de l'éléphant à quelques coups répétés, l'éléphant se tourne vers la gauche.
And when he hits the right ear a number of times, then the elephant goes right.
Et de la même manière, s'il tape sur l'oreille droite de l'éléphant, l'éléphant se tournera vers la droite.
And when he hits it in the middle, then the elephant sits.
Et quand il frappe sur le sommet du crâne au milieu, l'éléphant s'assied.
But sometimes the elephant just wants to go left.
Mais de temps en temps, l'éléphant, il veut juste aller à gauche.
Doesn't matter what the little man does with his stick, the elephant just goes left.
Et donc cela n'a aucune importance de voir ce que l'Indien fait ou là où il tape, l'éléphant veut tout juste aller sur la gauche.
Sometimes the elephant just wants to sit. It doesn't matter what the Indian man does.
Et de la même manière, l'éléphant, il a juste envie de s'asseoir, peu importe ce que fait le petit homme.
The elephant are your emotions, the little Indian man is your intellect.
Et donc l'éléphant c'est vos émotions, le petit homme indien c'est vos conceptions, votre intellect.
We Christians are busy explaining theology to the Indian man.
Nous en tant que chrétiens, notre boulot c'est d'expliquer la théologie. Non, nous nous occupons à expliquer la théologie au petit homme indien.
And Hollywood is busy talking to the elephant.
Et Hollywood s'occupe à parler à nos émotions.
And then you have a sister who's been 80 years in a Christian church.
Et là vous pouvez avoir une sœur qui a été 80 ans dans une église chrétienne.
Always believed that homosexual sex was sin.
Toujours persuadée que la pratique homosexuelle était péché.
And then her 18-year-old grandson comes out of and says she's gay. He's gay.
Et là, son petit-fils de 18 ans vient la voir en disant « Ben voilà, mamie, je suis gay. »
And comes to a family reunion with his friend.
Et vient en famille avec ses amis.
The sister has 2 or 3 months of confusion.
Cette sœur a 2 ou 3 mois où elle est confuse.
perdu. And then thinks, but well, he's such a lovely grandson.
Mais elle se dit, mais il est tellement aimable, ce petit-fils.
Now it must be okay.
Donc ça doit aller.
The elephant moved.
Et là, l'éléphant a bougé.
So he encourages us to keep on speaking to the Indian man, but to learn to speak to the elephant.
Donc ce que je vous encourage à faire, c'est de continuer à parler au petit homme indien, mais d'apprendre à parler à l'éléphant également.
How do we speak to the elephant?
Et comment faisons-nous pour parler à l'éléphant?
Through stories, through music.
À travers
through
des
poetry,
histoires, des anecdotes, musique,
drama,
poèmes,
testimonies.
Témoignages.
And that was the motivation when I read that, that yes, he's right. We need to work on a website with stories.
Et donc, ça, j'en étais convaincu et je me suis dit, je dois appliquer cela sur mon site internet à travers des anecdotes.
On the website, we have one page with 10 stories, 4 minutes, 5 minutes.
Et donc, sur ce site internet, nous avons une page avec une dizaine d'histoires de 4 à 5 minutes.
We have a page with Bible theology.
Nous avons une page avec la théologie biblique.
I worked weeks at getting that just right and attractive and, you know, just all the better arguments.
Et donc, j'ai travaillé des semaines pour la peaufiner de façon à ce qu'elle soit irréprochable avec les arguments les plus clairs possibles.
To my great frustration, very few people visit my Bible study. They go all for the stories.
À ma grande frustration et dépit, très peu de personnes visitent la partie théologique et vont directement sur les anecdotes.
The elephant and the small one. So,
l'éléphant et le petit homme.
If you're gifted in some way, take one of these books and be inspired and see what you can do in Switzerland.
Et donc, si vous êtes doué pour cela, pour créer ces anecdotes et parler à l'éléphant, prenez ce livre et voyez ce que vous pouvez faire en Suisse.
I paid about 10 pounds, 12 pounds for these books.
J'ai acheté ce livre 10 à 12 livres, donc environ 16 à 20 francs.
I paid about 2 pounds for these books.
J'ai acheté ces deux livres.
£2 and £2.
That's the translation. Yes.
So if you're interested, just leave some gift or something in the box and take a.
Donc si vous êtes intéressé, laissez quelque chose dans la boîte et prenez, soyez libre de prendre ces livres.
This is French.
Ce livre-ci est en français, n'est pas édité par la Maison de la Bible. C'est vraiment très dommage.
Not CLC, sorry.
Not Bible House.
No, Bible House is too slow sometimes, so then you have to.
Je ne traduis pas.
CLC took 4 or 5 years to eventually publish this one.
Donc la CLC a mis 4 ou 5 ans pour finalement le publier, la puissance.
So I'm not particularly inspired by the French speed.
Donc je ne suis pas particulièrement inspiré ou impressionné par la vitesse des Français.
Of all the books I've written, which are not many, but all this is the one I get most reactions from.
Et donc de tous les livres que j'ai écrits, c'est celui sur lequel j'ai eu le plus de réactions. La puissance transformatrice du pardon.
So in it you can learn how to forgive and how to coach other people to forgive.
Donc le propos de ce livre, c'est que vous pouvez apprendre comment pardonner et aussi comment apprendre d'autres à pardonner.
So when they published this about 3 months ago,
donc quand ils ont publié ce livre à peu près il y a 3 mois environ,
I got 200 copies.
J'en ai acheté 200 exemplaires.
And in Holland, no one really speaks French, so I thought I'll take them on my journey. Please take one home if you'd like to.
Et donc, voilà, en Hollande, il n'y a pas grand monde qui parle le français, donc si vous vous sentez libre d'en prendre. Et donc, on va céder la parole à Jean pour la suite du programme.